Ok, alors regardez, en essayant de synthétiser, qu'est-ce qu'on voit dans Netiv Hayisurim ? Dans Netiv Hayisurim, on pourrait dire c'est une ode à l'inconfort. C'est-à-dire que quand on est dans le confort, on a l'impression que c'est ce confort qui nous donne une existence. Et c'est une illusion en vérité. Qu'est-ce qui nous donne la source d'existence? C'est quelque chose, on pourrait dire, de kadosh, quelque chose comme dit le Maharal, séparé du matériel. C'est pour ça qu'il se trouve la Shekhina auprès du malade. Parce que le malade qui est entre la vie et la mort, eh ben, est perceptible que ce qui lui donne la vie, c'est pas que les vitamines. Voilà. Et ça, quelque part, quand il y a des difficultés, multiples et moyennes. Hein. On a vu la semaine dernière que les frustrations ou les petites déconvenues même. On croit qu'on a 3 euros dans la poche, on met là. Oh, zut, j'en ai que 2. Et ça, c'est déjà bien. Hein, on a vu ça la semaine dernière.
Contrariété,
voilà. Ces contrariétés. Quelque part font qu'on n'est pas complètement en phase avec la matérialité. Bon, voilà, c'est moi ce qui me reste, ce point central qui me reste des chapitres. Hein. Évidemment, il y a plein d'autres nuances. Mais... Voilà. Et d'autre part, on avait vu la Gemara d'Afkouf Alef dans Maseret Sanhedrin, Gemara absolument centrale, où Rabbi Akiva disait « Chavivim Yesurim » parce que la connaissance, la réflexion, elle vient dans notre vécu, de tous ces aléas bizarres qui nous interpellent, en vérité. Ils nous forcent à réfléchir. Sinon,
Le confort nous anesthésie.
Voilà. Voilà. Bien qu'on voit que les tzadikim, ils recherchent, en vérité, c'est pas le confort, ils recherchent le kiddush Hashem, en vérité que conserve Dieu dans la joie et dans la sérénité, quelque part c'est la gloire de Dieu. Hein, c'est aussi la gloire de Dieu. Mais d'un autre côté, notre réalité, elle est en mouvement. Ok, on continue. Alors avec ce midrash, hein, on va le faire dans le texte, parce que là... comme il y a des versets, j'ai préféré le faire dedans. Hein. Alors, il va le rapporter d'extinction. Atem Nitzavim Ayom. Donc, on sait qu'il y a la parasha de Nitzavim, juste après parasha de Kitavo. Parasha de Kitavo, donc il y a parasha de Kitavo, toutes les malédictions. Atem Nitzavim Ayom, vous êtes dressés aujourd'hui. Zeshamar Akatouf, c'est ce que dit le verset. Afor Shayim Venam. Ou bet tzadikim yahamod. Scrute les impies, ils ne sont pas là. Et la maison des tzadikim se tiendra. C'est dans Michelin. Kolzman, Shakadosh Bokhur, Mistakel, Bemasem, Shel Roshaim, ou me affaire baem, en laem tekuma. Quand Dieu scrute les actions des impies, ou me affaire baem, et fait un diagnostic. Et la Mtekuma, il n'arrive pas à tenir. Hyper Bemasem Shedor Amaboul, il a scruté les actions de la génération du déluge. Loaeta la Mtekuma, ils n'ont pas pu tenir. Shenema Vaimar et Kolayekum, c'est effacer tout ce qui tenait. Ça ne tenait pas. Il a scruté les actions des gens de Sodome ça n'a pas tenu chez les mains. Vaya fort était Arimael. Il a renversé ses villes. Donc là, c'est intéressant, le Midrash, la lecture, hein, veille à force, il faire, dans le sens de, tu vois, on va avoir, nous, un truc, URSAF, comment ça s'appelle, les mecs qui viennent voir tes comptes.
Un contrôle,
voilà. Ouais, veille à force. vous voyez ce que je veux dire? Non, tu Tu vois pas. Bon, c'est pas grave. Alors... Tu veux pas voir?
Non, j'ai pas bien
fait. La contrôle URSAF.
Oui, alors.
Non, c'est tout. C'est, ça m'aide à traduire. Non, parce que Vaya fort, il a renversé Sodome, les villes. Mais il faut un jeu de mots, Vaya fort, dans le sens, il a contrôlé les villes. Tu vois?
D'accord.
C'est un jeu de mots que le Midrash y fait. Vaya fort était Arimael. Hyper Bemasem chez Mitzrayim, donc il a fait contrôler, hyper, c'était, il a compulsé, il a compulsé les actions des Égyptiens, Veloaita Baem Tokuma, ils n'ont pas pu tenir. Chez Neymar, Lonisha Baem Adecha n'en est pas resté jusqu'à un. Hyper Bemasem chez le Babel, il a contrôlé les actions de Babylone et ils n'ont pas eu de tenue. Chez Néhémar, comme dit le verset, il crati les Babel Shem, Ushar, Venin, Vanached. J'ai retranché de Babylone le nom, le reste de descendants et de petits-fils. Oh là 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 là. Donc là, c'est-à-dire que la descendance de Nabucodonosor va être bannie. Ishaïa. Valkula Mamar David. Et surtout cela, dit le roi David, Sham naflu pour aller à Ven Dochu Velo Yachlukum. Là-bas, chutèrent les fauteurs, ils ont été repoussés et n'ont pas pu tenir. Aval Israël, nos flim veomdim. Shalom. Aval Israël, chute et se relève.
Israël chute et se relève.
Car Israël chute et se relève. Cher monsieur. Là, donc il rapporte le Midrash Tanhuma et j'ai préféré le faire dans le texte parce qu'il rapporte des versets. Ah bah, alors. Il veut dire que c'est le Midrash dans Parashat Nitzavim. Pourquoi Parashat Nitzavim est juste après les Klalot de Kitavo? Après les Klalot de Kitavo, alors il rapporte le Midrash Tanhuma. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu scrute les actions des impies et ils chutent et ils sont détruits, ils n'ont pas de tenue. Voilà. Aval Israël, donc la quatrième ligne. Aval Israël no flim v'omnim. Israël chute et se relève. Vechenu Omer, comme dit le verset dans Micha, Al tismeri oyavti li ki nafalti kamti. Mon ennemi, ne te réjouis pas contre moi. J'ai chuté, je me relève. Ki ani Hashem lo shaniti. Alors, qui a ni Hachem le Shaniti, je ne vois pas qu'est-ce qu'il rapporte de ce verset de Malachi. Le verset de Micha, c'est clair, hein, je chute, je me relève. Le verset de Malachi, il va expliquer dans la suite, il va expliquer tout de suite. Qui a ni Hachem le Shaniti, moi je n'ai pas changé. Amar Rabbi Hanina bar Papa. Rabbi Hanina bar Papa dit Amar HaKadosh Baruch Hu Me'olam lo hikiti uma ve'shaniti la. HaKadosh Baruch Hu dit jamais je n'ai frappé une nation et que j'ai eu besoin de répéter. Me'olam lo hikiti uma ve'shaniti la. C'est-à-dire, j'ai frappé, c'est fini. Aval atem bnei Yaakov lo chilitim. Mais vous, Israël, je ne vous ai pas exterminé. Shenema chitza yachalebam. Comme on dit dans la Shirat Azinu, mes flèches se termineront en eux. C'est-à-dire, chitza kalim venenam kalim. C'est-à-dire, mes flèches s'épuisent, mais eux ne sont, s'arrêtent pas. Ainsi dit l'Assemblée d'Israël, Darar Kashto Vayatsi Veni Kamatara Lachetz. Il a bandé son arc, il m'a dressé comme comment dire en français, la cible, comme la cible à la flèche. Il a bandé son acte et il m'a dressé comme une cible pour la flèche. Machal et Madavardomé, à quoi cela ressemble? Les Gibor chez Emid et Takora, Vaya Zoregbo et Tachitzim. Ça ressemble à un héros qui a dressé une poutre et lancé dedans des flèches. Chitzav Kalim Vakora Bimkomo Medet. Ces flèches se brisent, mais la poutre tient tout le temps. Af Israël, Kozman, Shalisurim, Baim Aleem. De la même manière, Israël, tant que les souffrances viennent sur eux, Ayesurim, Kalim, les souffrances s'épuisent. Ve'embim, Komam, Omdim, Venam, Kalim. Eux, Israël, restent dressés et les flèches, et oui, Israël ne s'extermine pas. Le Karnema, c'est ce que dit le verset dans Michelet, « Afor Shem Venam » Il examine les impies et ils ne sont plus là. « Obet Tzadikim Yamod » La maison des Tzadikim se dressera. « Amar Hizkiaou Beno Shel Rabbi Chia » Hizkiaou, le fils de Rabbi Chia, dit: alors vous savez que on dit qu'à Kajboku, les civilisations se succèdent et chutent, et il ne reste plus rien. Mais Israël reçoit des souffrances, mais a une pérennité. Bon, ça c'est connu, c'est ce que dit le Midrash. Bon, maintenant, entre parenthèses, pour moi, il y a un grand mystère, mais je pense que ce n'est pas que pour moi. Vous voyez, par exemple, l'Allemagne, entre parenthèses. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, elle était complètement... ratatinée. Et on aurait pu imaginer que l'Allemagne disparaisse complètement du concert des nations. Et entre nous, je ne sais pas, c'est quand même le fer de lance de l'Europe, non? À moins que je me trompe.
Oui, mais c'est pas comme l'Égypte, la Babylone, la Syrie et tous les autres.
Oui, mais non, mais là, on aurait pu imaginer que après ce qui s'est passé et après le laminage de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne serait comme, je sais pas moi, la Slovénie, quoi.
Ça n'a pas voulu.
Non. Alors là, tu nous as aidé là, tu vois.
C'est une question d'équilibre entre les pays européens. C'est comme en 1815, on aurait pu imaginer que la France aurait été totalement détruite.
Oui. Il y avait le premier verset.
Les Russes étaient à Paris.
De Michelet après.
Et finalement, la France a été réintégrée dans le concert des nations européennes.
C'est une question.
Ça a toujours été la vision européenne.
Et après le roi David.
À toi, tu dis que ce n'est pas des ressources autonomes, c'est qu'ils ont été plus ou moins promu. Quoi.
Volontairement, on a réintégré l'Allemagne, comme volontairement, en 1815, on a réintégré la France.
Ah oui.
Oui, mais c'est où ça, le
Rwanda? Ah, c'est-à-dire, quand toi, tu veux dire que lorsque De Gaulle, il a tendu la main à Willy Brandt, etc., à Adenauer, ils ont construit l'Europe, c'était pas simplement un problème économique, mais ça va plus loin, quoi. Ah oui. Ah d'accord.
Ah oui. C'est une vision, ça remonte aux guerres de religion du XVIIe siècle.
Oh là. Attends, t'as entendu ça?
Traité de Westphalie.
Pas le début. Oh.
Comment?
Pas qu'à le début là, je t'avais.
Ah oui, non, c'est, attends, là.
Un cénacle.
Là, c'était une intervention au Sénat.
Remarqué.
Attends, tu peux reprendre pour les petits camarades, parce que là,
Il y a un principe d'équilibre entre les nations européennes qui remonte aux premières guerres de religion entre les catholiques et les protestants, et la guerre de 30 ans, etc., le traité de Westphalie. Et à partir de là, a été défini un principe qu'il fallait maintenir un certain équilibre entre.
Un principe conscient, tu veux dire?
Oui.
Ah, ça veut dire que lorsque.
Il y a toujours eu des alliances entre nations européennes pour maintenir cet équilibre.
Toi, quand De Gaulle, il a tendu la main à Adenauer à la fin des années 50, c'est pas simplement.
Ça à une vision de dire.
Mais ça, c'était conscient. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas que l'Allemagne chute. C'est ça.
Parce que sinon, on a une nation qui va être trop puissante et qui va prendre toute l'Europe.
Mais là, d'accord, mais là.
Et c'est pareil en 1815.
Après la chute de Napoléon.
Traité de Vienne, en 1815, c'est la même histoire. On aurait pu dire, on va écraser complètement, on va laminer la France, parce qu'ils sont allés, machin, etc. Et en fait, on n'a pas fait.
Il faut dire quand même aussi qu'au du temps des rois,
c'est un équilibre de quel ordre?
Comment?
C'est économique?
Non, ça veut dire... Ce que veut dire Philippe, c'est que de manière consciente, il y a une politique européenne d'équilibre.
Mais en fait, qui est né parce que quand il y a eu la guerre de 30 ans, il y a eu de tels massacres, etc., que les Européens se sont dit qu'il faut arrêter les massacres et les morts, etc., et pour des problèmes religieux. Et donc, c'est défini un principe de il n'y aura pas une nation plus puissante que l'autre, donc on va essayer de maintenir un certain équilibre.
Tous les royaumes étaient en famille.
En plus, il y avait des histoires de famille. Il ne pouvait pas s'anéantir.
Il ne pouvait pas s'anéantir.
Donc la notion d'Europe, c'est pas récent. Il y a une Europe souterraine.
Ah oui.
Ça remonte à, on va dire, aux guerres de religion du XVIIe siècle.
Ah ben, d'accord. Alors, non, mais je
la guerre de 30 ans.
D'accord, mais on peut entendre que l'Allemagne, quelque part, ne s'est pas effondrée. Mais pas seulement elle ne s'est pas effondrée, elle s'est construite. Et elle est, à moins que je me trompe, j'ai l'impression que c'est le pays le plus dynamique d'Europe. Oui, alors, c'est tellement dynamique qu'ils ont intégré l'Allemagne de l'Est, qui était tiers-mondiste, c'était un genre de tiers-monde, et ils l'ont intégré, et ça leur a donné encore plus, et maintenant ils ont intégré 1 million de réfugiés, là.
Sauf qu'il y a d'autres problèmes. À la limite, ça peut évoluer, cet équilibre où l'Allemagne est la nation la plus puissante en Europe, ça peut évoluer.
Non, mais on est quand même étonné. Enfin, moi, je suis étonné. Mon père, il disait en yiddish, Schwarzgeviron. Ça veut dire, ils ont un destin noir. Ça veut dire, quand quelqu'un y réussit, tu demandes pas, tu te demandes comment ça se fait, il y a un mot en yiddish pour dire. Mais zut, quoi, c'est pas eux. C'est quand même étonnant, quoi. Je sais pas, on s'étonne. Et on s'étonne aussi de la Suisse, par exemple, aussi. T'as des pays quand même peinards.
Il y a un équilibre en Europe qui remonte à très très loin.
Il n'y a pas d'annexation ou de guerre qui vise à éliminer un pays de l'Europe.
Un petit peu avec Charles Quint.
T'as vu de. guerre qui visait à annexer un autre pays en Europe.
Bah, la guerre de 14-18, ça a été quand même... ça a rompu le consensus.
Et après, on a essayé de rétablir les équilibres. Alors, effectivement, ça a cassé des.
C'est une guerre mondiale. C'est à ce titre-là, parce qu'elle rompt l'équilibre. Mais ça, logiquement, c'est pas ça.
Ça n'était pas isolé. L'Angleterre est quand même venue, les Américains aussi.
Il y a des coalitions qui sont.
Mais toi, tu dis que. Donc, pour résumer, que quand De Gaulle. Quand De Gaulle a retrouvé Adenauer à la fin des années 50.
C'était une vision de l'Europe qui remonte à il y a très longtemps.
Ah, d'accord. Il y a des gens qui ont une conscience politique, une conscience historique.
C'est une conscience historique, c'est
d'accord. Ok. Alors, tout ça, c'est, quand même, ça veut dire. Je ne veux pas, Chas v'Shalom, contester ce qu'on est en train de voir, mais ça veut dire. Bon, mais là, peut-être c'est à court terme, mais là, Israël à long terme a une pérennité, et t'as des empires qui s'effondrent. Voilà. Bon, ça c'est ce qu'il dit. Maintenant, Amar Hizkiyahu beno shel Rabbi Chiya. Lama nismera parasha zo le parashat klalot. Pourquoi la parasha Nitzavim est accolée à la parasha des malédictions? Le fils et chameau Israël, mais à klalot. Parce que Israël a entendu les malédictions, sans malédiction, moins deux.
Sans malédiction,
sans
malédiction.
Sans moins deux, ça fait 98. En plus des 49 qui sont dites dans le livre de Vaïkra. Miyad oriku pneem ve'amru. Alors, leur visage ont blémi et ils ont dit Miyuchal la mod ba'elou. Qui peut survivre à tout ça? Miyad kara ota Moshe vayam faisam. Moshe les a appelés et les a consolés. Maketib le mala minaynyan. Qu'est-ce qui est écrit juste au-dessus? Vaikra Moshe el kol Israël. Amasot agedolot vatovu el amakom azeh. Vatem lo shematem et koli vamartem le fanaï de varim shatem chayvim malem klia. Vous avez dit devant moi des choses qu'en vérité vous aurez condamnées d'extermination. Velo asiti etrem klia. Mais je ne vous ai pas exterminé. Shenemar avotenu bemitzrayim lo iskilu niflotecha. Nos pères en Égypte n'ont pas réfléchi au prodige. Velo odela shamartem la egel ele lo kecha Israël. Et de plus, vous avez dit au veau d'or, voilà ton Dieu Israël. Vim toma mipnema goyim nitravu kriya vanu kayamim. Et si tu vas dire alors finalement pourquoi les nations sont condamnées à disparaître et nous avons une pérennité. Le fi shebeshash shebaim aleim yisurim mevatim baim venam askirim shemo shel hakadosh baruch hu. Parce que quand des malheurs leur arrivent, ils se révoltent. Et ne mentionne pas le nom de Dieu. Shenemar, Shefor Hamatera Lagoyim Asher Lo Yedaucha Beshimcha Lo Karaou. Verse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et ne proclament pas ton nom. Aval Israël, Keshe Yisurim Baim Aleem, En Nirnaim Umit Palelim. Mais Israël, quand les souffrances viennent sur eux, ils se courbent. Et prie, chez Neymar, Kos Yeshua Tessa, le verre de délivrance, je porterai, Tsara Vayogon Emsa, combien même les malheurs, et je suis dans les malheurs et la tristesse, au Beshem Hashemekra, et le nom de Dieu je proclame. Le Fikar Amar Lahem Akadosh Bokhu, c'est pourquoi Dieu a dit, Afalpi Sheklalot Alalu Baot Alechem, ou bien même, ces malédictions vous atteignent, elles m'amidot etrem, elles vous maintiennent. Mais Renou Omer, et le verset dit, le man anotra, le man asotera, le tivra bakatera, pour te faire souffrir, pour t'éprouver, pour te donner du bien, à la fin.
Fait carrément la haine, Moshe l'Israël, ainsi, Moshe a d'Israël, Afalpi, Shesrim, Alalou, Baïm, Alechem, Yesh, Lachem, Amida. Quand bien même ces souffrances viennent sur vous, vous avez une pérennité. Le karnema ratem nitzavim ayom kulchem, c'est pour ça le verset dit, vous êtes dressés, c'est-à-dire, c'est grâce à ces coups que finalement vous tenez. Ces coups vous permettent de tenir, parce qu'en vérité, ce qu'on a vu, donc, si on peut synthétiser ce qu'on voit depuis ces quelques chapitres de Netiv Ayesurim, que les souffrances font relever des capacités qui ne sont pas instinctives, des capacités qui étaient latentes et qui peuvent ressortir sous l'adversité. C'est ce qui a été, on peut dire, vulgarisé par le prophète des nations, Boris Cyrulnik, la résilience. Voilà, en un mot. C'est un des nombreux machiars du peuple juif, Machiar Ben Yosef. Non, mais c'est sans blague, c'est ça. Hein. Je veux dire, on peut, ça veut dire. Quand Jésus il a dit tais-moi ton prochain comme toi-même, ils ont dit attends, d'où ça vient ce truc-là ? C'est un dieu. Mais tout le temps, tu as un petit juif comme ça qui vient. Qu'est-ce qu'il a dit ? Boris Cyrulnik. Il dit, voilà ce qu'on fait dans les Timothéolames, il a dit au Goyim. Oh, c'est ça. Ça veut dire qu'il y en a, ils ont vécu des grands traumatismes, en vérité, ça les construit. Et voilà, ça s'appelle, il appelle ça la résilience, et il a rendu des boucles. Voilà, c'est le sujet. C'est exactement le sujet. Mais alors, comme ils n'arrivent pas à comprendre, il faut qu'ils. Aussi, on a du mal à comprendre, mais c'est un fait, quoi. Bon, on va voir ce que le Baral dit.
Mais c'est au niveau collectif, pas individuel, ça.
Comment ?
C'est au niveau collectif, pas du peuple, pas de la... Pas de la
là, c'est au niveau, effectivement, là, ce Midrash parle au niveau collectif. Mais ce niveau collectif, c'est quand même une somme d'individus et d'individus qui réagissent, voilà. Qui réagissent. Mais c'est intéressant. Vous avez déjà rencontré Cyrulnik vous-même ?
Comment ?
T'as déjà rencontré Cyrulnik ?
Cyrulnik ? Non.
Moi j'étais en contact avec lui plusieurs fois, j'ai voulu au fil des années l'inviter, ben, ça c'est pas fait.
Bonjour, c'était quoi le verset la Moshe les a appelés, les a consolés, si j'ai écrit juste
que vous avez
dit des choses devant moi que vous...
סליחה, אני עסוק עכשיו. תסלח לי. כן, כן, כן. Voilà. Bon, j'ai contacté il y a 15 ans, 10 ans. Bon, c'est Loyatsa. Mais je pense que ça n'intéresse pas. Ça lui suffit d'être ma chère Ben Yosef. Non, mais je blague pas. Hein. Je dis ça de manière. C'est comme, bon, là, il y a deux mois, il y a un autre ma chère Ben Yosef qui est décédé. C'est. Aaron Appelfeld, bon, il y en a plusieurs comme ça. Tu connais Aaron Appelfeld ?
Non.
Tu connais pas Aaron Appelfeld ?
Connais.
Alors, par contre, moi, je l'ai rencontré. Je t'ai dit, hein, je l'ai rencontré il y a 15 ans. Je sais pas. Bon, maintenant, chacun y va de son truc. Hein. C'est quelqu'un, il a, je sais pas, transformé la littérature israélienne. Jusque-là, jusqu'à lui, la littérature israélienne était kibbutznik, ça veut dire Amotsoz, Alef Bet Yoshua, il dit, moi je ne suis plus juif, je suis cananéen, ça veut dire, on n'est plus, il y avait une tradition littéraire galoutique, et maintenant, nous allons créer une littérature israélienne, voilà, qui n'a plus rien à voir. Voilà. Bon, avec ses réussites multiples et diverses. Et Appelfeld, il s'est échappé des camps quand il avait, je sais pas, 7 ans, machin. Et il s'est retrouvé tout seul dans les bergers ukrainiens. Et après la Seconde Guerre mondiale, il est allé en Israël. Bon. Et il a petit à petit, dans l'anonymat total, il a commencé à écrire des livres qui réinsufflaient un souffle de judaïsme. Alors au départ, il se foutait de sa tronche, etc. Ils ont dit « Ouais, qu'est-ce que c'est cet imbécile ?» Et puis finalement les goyim ont été, je pense, ceux qui sont intéressés par la littérature. On dit, mais qu'est-ce que c'est ce chef-d'œuvre ? Ces chefs-d'œuvre, ils nous font des chefs-d'œuvre les uns après les autres. Alors ils étaient bien obligés en Israël de le reconnaître. Et je vous dis sincèrement, ça devait être, je ne sais pas, en 97, à la bibliothèque municipale à côté de chez moi. Je trouve un livre, on a peu le fait, je l'emprunte. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ouais, c'est pas... Tu as lu Katerina ?
Non,
Katerina ?
Non.
Oh là là. Mais c'est le souffle de Yiddishkeit. Dans un hébreu, on dirait du Tanar.
Ah, en hébreu ?
Ouais, en hébreu. On dirait du Tanar.
Vous l'avez lu en hébreu ?
Je l'ai lu en français, après je l'ai lu en hébreu. Mais d'abord, je l'ai lu en français. C'était très, très bien traduit. Et après, encore d'autres livres. Une profondeur de... D'où est-ce qu'il vient celui-là ? Et en 2002, je l'ai rencontré. Je me dis, je veux le rencontrer. En 2002, je l'ai rencontré à Jérusalem. Ça ne l'intéressait pas vraiment. Il m'a raconté ce qu'il a écrit dans ses livres. Ce qui est fréquent. Hein. Nous, on avait raconté. C'est à peu près pareil. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas été...
Vous vouliez qu'il intervienne quelque part ?
Non, je voulais le rencontrer comme ça. Je ne sais pas. Comme je vous rencontre, là. qu'il y a un échange un peu personnel. Bon, c'était rien de spécial. Mais bon, peu importe. Mais en tout cas, c'est un souffle, quoi. Un souffle de judaïsme. Bon, c'est pas quelqu'un d'orthodoxe, hein, mais c'est quelqu'un très très attaché à... Bon, il est décédé il y a 2 mois, un mois environ. Mais son œuvre est incroyable. Je te conseille Katerina.
Mais il était affilié à un mouvement Mizrahi ou
non, non, c'est un écrivain. Écrivain. Très grand copain avec Philippe Roth. Son grand pote, c'est Philippe Roth. Alors, je vous conseille aussi, j'ai mis sur le site de la Yeshiva comme lecture, il y a 10 ans, j'ai mis ça, que Philippe Roth. Il a écrit un livre qui a été publié aux éditions Gallimard, Parlons travail, où il parle comment on écrit avec plusieurs grands écrivains, Milan Kundera, etc. Comment c'est pour vous votre travail d'écrivain. Alors bon, il y a plusieurs, Milan Kundera, je ne sais pas qui c'est, il y a d'autres, etc. Et il y a Aaron Appelfeld, il y a 15 pages un peu. Oh. Alors, il y a un truc. Non mais tout ça pour dire qu'il y a... pour les goyim, ceux qui sont intéressés par la littérature, hein, tu vois, si tu leur demandes bon, qui c'est les écrivains aujourd'hui, je te dis un peu le fait, voilà, point. Mais c'est pas... c'est incroyable. Bon, c'est dommage qu'ils soient décédés, franchement, parce que... On n'en a pas fait... Non, ça veut dire... ça aurait pu, je sais pas, faire la une des journaux, quoi, tu vois. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été un événement spécial.
Quand même, la mort d'Aaron Appelfeld, si, dans les grands journaux français, enfin, Enfin, le monde, c'est pas que c'est une star pour le monde.
Donc. Ouais, pour le monde, c'est la grosse star. Hein. C'est le Messi, quoi. C'est... Non, mais franchement, tu lis des Apple Fêtes, tu dis, c'est le Messi, quoi. Ah ouais. Bon, recentrons. Tout ça pour dire que là, disons, ce qui est travaillé ici... Non, parce que Apple Fêtes, c'est aussi la même chose. Apple Fêtes, c'est la... Tu as lu L'Amour Soudain ? L'Amour Soudain ? Non, d'Apple Fêtes. Ava Pitom. Je l'ai lu d'abord en hébreu. Ava Pitom.
Je sais pas de quel vers il s'agit.
L'amour soudain. Terrible. Ok. On y va.
Voilà.
Non, je suis désolé, après vous allez dire, mais je comprends pas. Avec tous les trucs qu'il lit, il disait qu'il a du temps d'étudier de temps en
temps. Je me demande comment tu fais. Tu as le temps de dormir.
Oh oui, j'ai le temps de dormir.
Qui vous rendent passible de l'extermination.
On y va. Alors, Ben Midrash, Azé, Mevaer, Advarim, Asher Abarim. Alors, regardez, là, donc, il rapporte le Midrash in extenso, mais j'ai préféré le faire là, voilà. Mais Midrash Hazé, Mevaer, Advaré, Macher. Dans ce Midrash, il explique les choses que nous avons dites. Kayesurim, Al-Tzadik, la tête qui Kiyumelav. Les souffrances pour le juste, hein, pour lui donner une tenue. Danou Kayesuri me marquim me salkim et pri tuto. Car les souffrances poncent et enlèvent la bassesse, comme on a dit plus haut. Kalva Romer, Meshen Vahin, raisonnement a fortiori de la dent et de l'œil. Shaeven Yotse Baim Lechut, par lesquels l'esclave sort à la liberté. Zeshama Kayesuri me marquim et adim, que les souffrances poncent l'homme. Quand les souffrants viennent sur Israël, se soumettent, ils implorent, ils appellent Dieu. C'est-à-dire, je me trouve dans les souffrances et dans la tristesse et j'appelle Hachem. Klomar, lorsque les souffrances viennent sur l'homme, elle me salkim et pechit toutes chez la haine. Cela enlève leur bassesse. Amachi kota minachem ilbara, la bassesse qui nous éloigne de Dieu. Hachem krovim et la chem ilbara, jusqu'à ce qu'ils deviennent proches de Dieu. Kachem me soula kagouf achomari, lorsque le corps matériel est parti. Venase nivdal dvekim bo ilbara. Et ils deviennent séparés du matériel et attachés à Dieu. Alors là, on avait dit d'autres fois, il ne le dit pas ici, mais il le dit multiples fois ailleurs, pour le Maharal, la vieillesse est l'apothéose de la vie. Alors, bon, ça c'est un truc. Il dit, comment ? Oui, ça s'entend. Comment ?
Surtout pour le Maharal, parce qu'il a toute son œuvre.
Oui, il avait 90 piges. Ouais. Tous ses livres, il les a écrits, il était frétillant, mais je ne sais pas s'il était vraiment frétillant.
Vous voyez ça dans le Maharal,
là ? Non, il ne le dit pas là, il le dit ailleurs. Il dit moult fois. Hein. Il dit que la vieillesse, on l'a vu plusieurs fois, la vieillesse, c'est l'apothéose, parce que la dimension normale, si tu veux, de l'être est brisée. Donc il est attaché à une dimension qui n'est pas de la normalité, qui est autre chose. Qui est autre chose. Qui est nifdal, c'est les mots qu'il dit ici. Hein. Il dit Kol od shayisurim baim aleihem, lorsque les souffrances viennent sur eux, me salkim et pri tout shelahem, cela enlève leur bassesse. Amari kota min Hashem vera, qui les éloigne de Dieu. Hachem krovil me lachem et barar, jusqu'à ce qu'il proche de Dieu. Kacher me soula kagouf achomari, lorsque disparaît le corps matériel, venase nivdal, il devient séparé de bekim bo et barar, attaché à Dieu. Le fikar korim me lakajbo bet saratam, c'est pour ça, à la limite, c'est strictement, à la limite, c'est quand ils sont dans les souffrances que se renouvelle un lien particulier avec Akadosh Baruch Hu, qui n'avait pas lorsqu'ils étaient jeunes, beaux, riches, fringants. Voilà.
Il y a comme une zone dans la vieillesse, j'imagine, parce que on dit que c'est comme le vin vieux parce qu'il il est meilleur, mais on dit aussi Al-Tashlikhani Lazikna. Il y a un moment où la vieillesse, c'est un déclin et on est coupé du monde, ou pas ? Ou est-ce que c'est inévitable ou c'est un choix de l'homme ? On est dépassé à un certain âge, on est plus maître de.
Bon, ça, c'est faux, ça, c'est la grâce de Dieu, hein. C'est. Il y en a qui ont encore des capacités quand ils sont âgés, il y en a qui n'en ont plus. Ça, c'est. Il faut. Ce qu'on dit, on doit prier hein, pour notre vieillesse. Voilà. On a prié pour notre vieillesse. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le fait justement d'être. C'est ce que Rav Théo Kahn avait dit lorsqu'il y avait les 7 jours de deuil, la fin des 7 jours de deuil pour M. Elie Fedida au Igoud Haredi. Il avait dit que Moshe Rabbeinu, il était bègue. Moshe Rabbeinu était handicapé. Mais cet handicap lui donnait aussi la possibilité d'avoir une relation avec Hachem, parce qu'il savait que ce qu'il faisait, il n'était pas. T'envoies aux enfants d'Israël un orateur hors pair. Ouais. Bon, on va dire c'est son talent d'élocution. Mais lui, il est handicapé sur ce sujet. Bah, donc il doit se débrouiller avec autre chose. Comment il va faire ? Il ne sait pas parler. C'est un handicapé. Alors, il doit trouver des ressources autres, tu vois. C'est quand même une drôle d'idée d'envoyer quelqu'un qui est handicapé sur ce sujet. Oui.
Drôle d'idée. Alors qu'il doit communiquer avec le peuple.
Avec le peuple.
Oui. Avec Paro,
c'est sa fonction.
C'est incroyable.
C'est incroyable. C'est une chose simple en
qui
vérité.
Boite, c'est bon, c'est pas gênant.
Voilà. Mais il doit communiquer avec le peuple. Ça doit être un homme de charismatique, si tu veux. Charismatiquement handicapé. Sur le sujet, justement. Il ne sait pas parler, en public, il perd ses moyens. À moins qu'il prenne de la cocaïne, peut-être. Il se dopait, il se prenait un rail avant de parler.
C'est combien,
Chemot,
combien ?
32. Blasphème. 32. Il se prend un rail avant de parler aux enfants des sons.
Des milieux.
On continue.
Ce serait les meutes.
On y va. Alors, le Fika Korim et la Kajoua Beit Saratam, c'est pour ça ils appellent Hachem à ce moment-là. Qu'Israël me soulakim Beatzma Minapritout, car Israël, par des définitions, sont détachés de la bassesse. Rakshemetzad Rachet Emnotim et la Pritout. Mais c'est du fait de la faute qu'il penche vers la bassesse. Mais par les souffrances qui viennent sur eux, ça enlève cette bassesse. En vérité, c'est un processus de purification. Et ils redeviennent eux-mêmes, si vous voulez. Ils redeviennent eux-mêmes. Et plus les souffrances viennent sur eux, plus ils acquièrent un attachement à Dieu. Le cas Korim Hachem d'Avarzé me voit. Continuons. Mais Perek, en vérité, c'est pas, évidemment, c'est pas tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde. Pour moi, c'est un. Comment dire. Si je voulais synthétiser ce qu'on voit dans ces chapitres, c'est ce point-là. C'est-à-dire que Israël a une capacité de, si on peut s'exprimer, de rebondir par les souffrances. Les souffrances leur donnent des capacités intérieures qu'ils n'auraient pas sinon. Ils n'auraient pas, et ça révèle ces capacités. Parce que sinon, c'est en potentiel. En potentiel, parce que. c'est par ces souffrances que ça remet en valeur leur intériorité et leur potentiel.
Mais c'est peut-être aussi l'alliance entre Hachem et l'Ebné Israël, Abraham, Israël et Jacob. Il y a une alliance qu'il n'y a pas ailleurs dans les autres.
Voilà.
Il y a pas cette alliance. C'est pas un rapport de père à fils.
Absolument.
Et qu'on peut accepter de son père des remontrances et même une fessée. Et si c'est fait avec justice et avec malgré tout avec amour, eh ben on l'acceptera. Parce que c'est son papa et que ça, c'est fait de manière qu'on peut comprendre. Et ça fait rebondir. Ça fait rebondir. Ouais.
Mais vous voyez par exemple...
Et on peut comprendre.
Vous voyez par exemple quand le judaïsme français, avant l'avenue des Juifs d'Afrique du Nord en France, était mort. Enfin, il y avait quelques individus comme ça, mais les Juifs d'Afrique du Nord qui sont venus. Bon, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Bah, ils sont, non, sans blague, ils sont venus sans rien. Ils sont venus, t'as des gens, je sais pas, ils étaient de Marrakech, ils se sont retrouvés à Périgueux, je veux dire, ou encore ils se sont retrouvés à Saint-Brieuc,
des trucs.
À la Roche-Migène. T'as des gens qui venaient, je sais pas moi, d'Oran, tu les mets à la Roche-Migène.
Vous connaissez la Roche-Migène?
Ouais.
C'est quoi? C'est un œuf ferroviaire.
La Roche-Migène, c'est
du côté de Dijon.
Ouais, Dijon.
C'est le trou perdu.
Roche-Migène.
La Roche-Migène. C'est un œuf ferroviaire.
Non mais, regarde, t'en es arrivé. Voilà, ils arrivent à Dijon. Tout de suite, ils font un mignon.
C'est marqué pour te faire
c'est incroyable. Ils sont arrivés dans des endroits complètement. C'est incroyable, des choses incroyables.
La souterraine.
Comment ?
La souterraine, dans la creuse.
Non, mais
c'est un choc thermique.
Mais les gens qui sont arrivés à Sarcelles, ça a été. Sarcelles, monsieur. Sarcelles, ça a été une catastrophe d'urbanisation.
Ah ouais.
Et les Juifs, ils en ont fait une merveille, quoi.
Un village.
Ils ont fait, je sais pas, un endroit plein de boucha, je sais pas. Moi, j'adore aller à Sarcelles.
Tu vois, 62, c'était des terrains vagues.
Ouais.
Rien. On voyait la Tour Eiffel.
Ah ouais,
ouais. C'était.
Mais il y a eu un syndrome psychiatrique qui s'appelait la sarcellite.
Aiguë.
Ouais, la sarcellite, c'était une catastrophe. Les Juifs qui sont arrivés à Sarcelles, complètement. Ils en ont fait un endroit de torture. Mais avec rien. C'est un truc de ouf. C'est fantastique. Voilà. On y va. Beperek Yeshnochlim, Baba Batra, Kouftet Zayin Amoudalef. Donc, chapitre Yeshnochlim, 8e chapitre du traité Baba Batra. Darash Rabbi Pinchas Ben Chama. Rabbi Pinchas ben Chama fait l'explication suivante. Caché aniyut beto beto chez la dame yoter mechamishim makot. La pauvreté est pire dans la maison de l'homme que 50 coups. Shenema chanuni chanuni atem rea ki yad Hashem nagabi vekamrele ishamer lecha al tefen el aven ki al ze bacharta meoni. Il faudrait voir le pasouk. Alors, Baba Batra, Kouftet Zayin, Amoud Aleph. Une seconde. Je vais chercher ça.
Ici, là, dans le garage.
Ouais, je crois que c'était dans le garage. Pour te faire souffrir, pour t'éprouver, pour te donner bien à la fin.
Pour te donner le lien.
Bien à la fin. Le bien à la fin. Là, il y avait deux fois.
69-7.
Je crois que c'est ça. Non.
Il n'y a pas 109-7 ici.
Si. Là.
Ouais, c'est 116. Ah, j'ai compris. C'est pas 109-7. 116.
116 ?
Ouais.
Là, vers de délivrance, je porterai. Et après, pour le verset dit, pour te faire souffrir.
Voilà, c'est... pour te faire souffrir, t'éprouver, te faire du bien à la fin.
C'est Devarim.
Un Devarim 8.
Pierre,
Et après, là, le verset à la fin, je me trouve dans les souffrances et tristesses et j'appelle Hacham.
Ah, c'est celui-là. C'est celui-là.
Alors, ou peut-être Zayn Aboudalef.
Là, c'est Télim 116. Ça va, il y a bonne
amie. Et celui qui dit le vers de délivrance, c'est pas Télim 116 ?
C'est le même.
Le même ?
C'est dans Job. Yotet Kafalef. Hanouni Hanouni Atem Reaï Kiyad Eloka Nagabi.
C'est où dans le jeu ?
Attends, une seconde. Une seconde. Ayez pitié de moi, mes amis, car la main de l'Éternel m'a frappé. Ishamer Altefen El Aven, qui alze Bacharta Meonis, un autre verset dans Job, qui dit fais bien attention, ne te tourne pas vers les fautes. Il vaut mieux cela que la pauvreté. Donc on voit que la pauvreté, il y a les coups. Il lui a dit tu as des coups, tu es frappé par Dieu. Mais tant que tu n'es pas pauvre, c'est là, t'es en réanimation à l'hôpital, tant que t'as un compte en banque, t'as quelque chose sur ton compte en banque, ça va. T'es en réa, c'est pas foutu. T'as quelque chose dans ton compte en banque. Une fois, j'ai lu dans un livre. C'est quoi un capitaliste ? C'est le plus riche du cimetière. On y va. C'est le plus riche du cimetière.
C'est où dans Job ?
Oh là là ! Là c'est pire encore. Là c'est des souffrances encore pires.
C'est où dans Job ?
Je m'en fous.
Dis-moi.
Mais regarde.
Suivre la
paix. Oh là là. Dis-moi ça. Bon, alors c'est parce que c'est toi. Je suis bon aujourd'hui. Alors, Job 36:21. Voilà, on y va. Biurze. Explication. Je suis dans le Maharal. Biurze. Kaoni yoter mikol amakot. Shem chamishim makot. Kemo shamru ki bemitzrayim lakur chamishim makot. La pauvreté est pire que les plaies, qui sont 50 plaies. Comme on a dit le soir du Seder, en Égypte, ils ont été frappés 50 plaies, car, on dit, c'est la main de Dieu, dans une main, il y a 5 doigts. Imken mimela ayad ichamishi makot. Quand on dit la main de Dieu, donc c'est 50. Vermar Job el chaverav. Job dit à ses copains, ki yad Hashem nagabbo, la main de Dieu m'a frappé. Vimken, il y a eu 50 plaies. Valkol ze amru chaverav elav. Et ses copains lui ont dit Alifen et lavel are rara midatadin. N'aie pas des pensées ineptes à l'égard de Dieu. Kalzi tov lecha meoni shuyoter. Tant que t'es pas pauvre, tout va bien. Ça veut dire t'es en réanimation, mais tant que t'as un sandwich au foie gras, c'est bon. Mais Zemipne. Car Eder ou Achisaron shel lechem ou parnasa ou keneged akol. Car l'anéantissement et le manque de pain et de parnassa, et ça c'est équivalent à tous les autres plaies. Kamaka enorak aider virison bamé. Un coup, c'est un anéantissement et un manque relatif. Mais la pauvreté est considérée comme la mort. Et la mort est le manque global de l'existence. Le fikar aoni chashuv kemet. Le pauvre est considéré comme un mort, mais plus aoni ou kemo amakot kulam. C'est tous les coups. Parce qu'un coup, c'est partiel. Un autre coup, c'est une autre partialité. Un autre, c'est une autre partialité. Ça, c'est partiel. Mais la globalité, la pauvreté, c'est la globalité.
Que moi, ma côte, koulami me kabel à ani à yisourim be'ava. Si le pauvre reçoit les souffrances avec amour, venu marer amidat adin, asraro ke moshe mon emala, ire zera yarech yamim. Alors, donc ici, il va conclure tous ces sujets des souffrances. Ouais, chaque plaie, c'est partiel. Mais la pauvreté, c'est l'anéantissement. C'est l'anéantissement global. Donc ça, c'est un grand thème dans le Maharal. Que la Parnassa, c'est ce qu'on dit, que caché Mezonotav, caché Mezonotav, chez la dame, Yoter Mekirat Yam Souf. Que la nourriture n'est pas d'une dimension de ce monde-ci. Parce que c'est la vie, la vitalité n'est pas ce qui nous... C'est autant la vitalité, si tu ne manges pas, ben, couc-couc. Donc la vie et la nourriture sont intimement liées. Ça, c'est pas une notion intuitive. Hein. Intuitivement, c'est pas comme ça. On a l'impression, la parnassa, c'est quelque chose de matériel. Et pour les chachamim, c'est ce qu'on dit. Pourquoi le soir du seder, on dit « Alel Agadol ». Pourquoi la Gemara, elle dit dans Masreb Sakhim, pourquoi ça s'appelle Alel Agadol? Parce que ça se termine. Notel lechem lechol basar, kilolam razo. Qui donne du pain à toute chair, kilolam razo. Donc ça, c'est la grandeur elle-même. C'est surprenant, hein? Donc là, la pauvreté, c'est l'apothéose de toutes les souffrances. Bon. Bémidrash. Shomot Rabba. Im kesef talve et ami. Si de l'argent tu prêtes à mon peuple. Ada ou dirtiv, yesh ra chola raiti tarat hashemesh. Yesh osher shamur le balav reato. Vavada osher raou benyan ra. Ashre adam shomel benisyono shen bria. Shen akoshvou menace ota. Ashi menace ou imte yado petura l'anim. Menace anim im yachol lekabel yisurim veno boed shenema vanim rudim tavi ba'it. Vimamad et Ashir benisyono voset sedakot ariu ochel memamono ba'olamaze vakeren kemel olamaba vakelosh matzino midina shel ginam shenema ashre baskil elda beyomra imalteu hashem. Vimamad et anim benisyono veno bevet aru notel kiflaim latil lavo shenema ki et am oni toshia. Mais mi ata l'amène, mais Yov, chenitiaser baolamazé, vishinemlo, quel jour qui flaim, chenema, yosef, hachem, et kol hacher le Yov, le michté. Alors, le Midrash Rabba, sur le verset, si de l'argent tu prêtes à mon peuple. Cela correspond au verset qui dit, dans Kohelet, Yeshra chola, il y a un malheur malade, j'ai vu sous le soleil. Il y a une richesse. Garder pour son propriétaire, pour son malheur. Cette richesse disparaît d'une manière catastrophique. Heureux l'homme qui tient dans son épreuve, qu'il n'y a pas Shen Bria, Shen Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une créature que Dieu n'éprouve pas. Toute créature a des épreuves. Moi, je voulais vivre tango, tango, tango. Mais mon père et ma mère sont toujours après moi. Mais je voulais vivre tango, tango, tango. La 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 la. À quel parent j'ai là. Ta la ta la la la. Alors, tout ça pour dire.
Classique. Il y a tous les dons.
Classique.
Quel répertoire.
Alors. C'est un poème de Aaron Appelfeld. Alors tout ça pour dire qu'il n'y a pas une créature. Nous, non, on aimerait vivre tango, tout ça pour dire. On aimerait vivre tango, tango, tango. Oui, mais on ne sait pas pourquoi, c'est pas toujours comme ça. Alors il dit, il n'y a pas une créature que Dieu n'éprouve pas. Le riche, Dieu l'éprouve. Le pauvre, Dieu l'éprouve. Alors, le riche, Dieu l'éprouve. Quelle est l'épreuve du riche? Imteya dop tuchalanim. est-ce qu'il tendra sa main aux pauvres? Ça, c'est l'épreuve. Menacer Annie, maintenant le pauvre, ben, tu ne peux pas lui enlever du fric, alors quelle va être son épreuve? S'il peut accepter les souffrances et il ne se révolte pas, c'est ça son épreuve. Shenema vanim merudim tavi bait, des pauvres brisés t'amènent dans la maison. Imama de Ashir Benishono vosset tzedakot. Si le riche, donc l'épreuve du riche, c'est donner de la tzedaka. Si le riche tient dans son épreuve et fait de la tzedaka, alors il mange de son argent dans ce monde-ci et le capital lui reste dans le monde futur. Et Akadosh Baruch Hu le sauve du jugement de l'enfer. Shenema Ashre Maskil Eldam. Heureux celui qui réfléchit pour le pauvre, le jour du malheur, Dieu le sauve. C'est-à-dire que celui qui est masquille et dalle, qui pense sa réflexion pour aider le pauvre, alors le jour où ça pourrait être un jour terrible, Dieu le sauve. Vimama de Ani Benistiono, Venomevaet. Si le pauvre, son épreuve, c'est quoi? C'est les souffrances. Et il ne se révolte pas. Alors, il prendra le double dans le monde futur. Shenema ki im amani toshia. Mon peuple pauvre, je sauverai. Mais miata lamed meyov de Job, qui a eu les souffrances dans ce monde-ci, et Dieu lui a donné le double. Comme on dit, Dieu lui a donné tout ce qu'il avait. Il a rajouté Dieu à Job en double. Otseloma. Que ça, c'est la Gemara dans Baba Batra qui dit qu'à la fin de sa vie, Dieu lui a donné dans ce monde-ci un avant-goût du monde futur. Que Moshe Amrou be Perekama de Baba Batra à Boker, à Bakar Ayu Chorchot va tonot rot al yedem. Les vaches labouraient et les ânes paissaient juste à côté, c'est-à-dire que il y avait une dimension de réussite immédiate, que tu laboures et tout de suite ça pousse. Tout de suite ça pousse. Me la mettre chez Timo Akajbo, les Yom et Nolamaba. Que Dieu a fait goûter à Job un avant-goût du monde futur. Nireli Pirusho, qui a kol nase meatsmo. On peut expliquer que tout se faisait par soi-même. Les vaches labouraient d'elles-mêmes sans fatigue. C'est dans le monde futur. Il n'y a pas le labeur, la mlacha, le tsahar, rar akol yenase meatsmo. Tout se fera de lui-même. Rachizal piresh, chaparot ayu chorshot, potashat samar, vayu atonot rod mema shet samar. Rashi explique qu'il y avait des mentions d'immédiateté, que nous, dans ce monde-ci, tout est différé. Tu plantes, ça pousse plus tard. Mais là, une dimension de la réalisation immédiate, comme ça explique Rashi. Mikol makom itimo kajmo meno lamaba trila kasher kibel yov yesurim. Lorsque Job a accepté les souffrances, au siflo mishne alasher ayalo kodem meno lamaba, il lui a donné le double, quelque chose qui ressemble au monde futur, mise nilmod. Shimehani me kabel et sourim, que si le pauvre accepte les souffrances, notez-le à Shemira Srar Kafoul Olamaba, Dieu lui donne une récompense double, comme chez Nathan Leyov, Sraro Kafoul Mehen Olamaba, comme il a donné à Job un Mehen Olamaba.
Cette notion de Akol Nehesem Atzmo, Vitorach, est-ce que c'est le monde de la machine, du robot? Est-ce que c'est une dimension de la Mabas, sans être marxiste, et fuir le travail non plus, mais est-ce que c'est une dimension de Adam la Malulad, où il y a le Meatsmo et le Blitorach Ayom avec la machine à des niveaux très incisifs, quoi? Est-ce qu'on n'est pas dedans?
Alors c'est intéressant parce que ce Shabbat, il y a un garçon qui est dans les technologies nouvelles. Je ne sais pas, il m'a raconté de lui-même comme ça que les technologies nouvelles, comme par exemple les traders, etc., font qu'ils sont captés par leur travail beaucoup plus qu'avant. Comme ça, il me dit. Ceux qui travaillent sur Internet, il faut être réactif tout le temps. Avant, tu pouvais te laisser aller. Maintenant, il faut que tu sois réactif. Ça, il me dit. Je sais pas si... C'est vrai qu'au départ, les machines Moulinex libèrent la femme. Bon, c'est vrai, quelque part.
Non mais là on a dépassé le stade de Moulinex quand même. On est à des stades où la robotique elle prend le relais,
elle remplace de manière presque autonome. Hein.
On arrive dans des...
Oui, mais il y a des opérations de chirurgicales. Je ne sais pas si ça libère.
Non, ça se libère.
Au départ, oui.
C'est le médecin ou quoi ? Ça se fait tout seul. Il y a des choses qui se font.
On voit que pour, au niveau métaphysique, les 39 travaux interdits Shabbat, c'est la suite, c'est que l'homme doit agir dans le monde, c'est la suite de la faute d'Adam. Donc il y a une dimension dans le jardin d'Éden où on n'est pas dans le labeur. Même c'est une halakha, un tamid racham, ça ne veut pas dire qu'un tamid racham ne doit pas avoir un petit travail. Il ne doit pas travailler devant les autres. Il ne doit pas bosser devant les autres. C'est un bisayon de la Torah. Donc il y a une dimension de ce qui veut dire une dimension de Olam Haba, c'est le monde du délice, où il n'y a pas la souffrance et il n'y a pas le travail. Voilà. Donc là, effectivement, il y a une intuition de l'abolition du monde du travail que nous on a vécu là dans les 30 dernières années. On croyait qu'il y aurait l'ère du loisir, etc. Mais je sais pas, c'est parti en cacahuète cette histoire. Je sais pas où c'est passé. Il y avait ce discours.
La fin du travail, ouais.
Hein, la fin du travail. Mais aujourd'hui,
Friedman. C'était Friedman qui avait
écrit. Oui, Friedman, c'est ça, la fin du travail.
Dans les années 60.
Voilà, c'est ça. C'était une utopie d'un monde.
Et là, c'est pareil avec la. Avec la robotique, on dit c'est pareil, voilà. Les robots vont prendre la place des hommes.
Mais on a l'impression que là, on est après ça, on en est revenu. Il y a eu cette idée très forte.
Il y a toujours, mais c'est récurrent et finalement, c'est jamais la fin.
On sent qu'on s'est fait avoir. Mais quand on disait que la machine à laver libérait la femme, ou le frigo, ou l'aspirateur, c'est vrai, à un moment. Non, est-ce que les femmes sont libérées ? Je sais pas, je cherche une femme libérée, je sais pas. Une femme libérée, ce n'est pas si facile. Tu as connu la chanson ?
Oui. Ça leur a permis de rentrer sur le marché du travail.
Voilà.
C'est-à-dire, ça n'a pas libéré, ça lui a donné d'autres contraintes.
Voilà. Ok, alors regardez-moi ce que j'aimerais la semaine prochaine, c'est qu'on commence un sujet, c'est Lev Tov et Ayin Tova. Lev Tov, c'est dans le même volume. Le bon cœur. Le bon cœur. Le bon cœur. Bon œil. Bon pied, bon œil.
Reçoit qui réfléchit pour le pauvre.
Et voilà, Lev Tov, c'est page Rechtet. Hein, ok. Rechtet, dans le même volume. Ok, merci à vous.